Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nana Podcast. Nana, ça veut dire menthe en arabe. Une plante rafraîchissante qui vient titiller vos oreilles deux fois par mois pour découvrir les histoires plurielles de Français et Françaises d'origine nord-africaine. Car oui, nos parcours de vie, nos identités complexes et riches sont encore trop méconnus. C'est pour cela que nous continuons à créer nos espaces d'expression pour partager, avec nos propres mots, nos récits de vie. À nos identités plurielles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un nouvel homme talentueux au micro de Nana. Anas Daif, journaliste et podcasteur, connu sous le nom de Jnounaliste sur Instagram et Twitter. Il a accepté de nous raconter son histoire et les étapes qui ont jalonné son parcours, des quartiers populaires au journalisme. Bonjour Anas et bienvenue dans Nana Podcast.
Merci, bonjour.
Je suis très très heureuse de te rencontrer aujourd'hui, même si on est à distance.
Moi aussi, hein, ça fait bizarre avec l'écran, c'est toujours étrange. Ouais.
Mais quand tout sera fini, on pourra faire des podcasts en présentiel et se rencontrer. J'ai très hâte.
Ouais, j'ai hâte, hein. Franchement j'ai hâte. Ouais.
Alors merci encore, je voulais te rencontrer parce que je voudrais qu'on parle de ton parcours. Et j'avais une première question sur ton histoire familiale. Tes parents sont marocains. Est-ce que tu pourrais nous parler du rapport que tu entretiens avec ces origines ?
Alors moi, j'ai un rapport très... Je suis très proche de mes origines marocaines. Je fais partie de ces jeunes enfants d'immigrés qui allaient au Maroc tous les étés, 2 mois par an, voilà, sans jamais vraiment penser à la France pendant ces 2 mois-là. Donc voilà, mes parents, quand j'étais plus jeune, m'ont appris l'arabe. Donc ma mère me parlait que en arabe marocain et mon père me parlait beaucoup plus en français, mais il voulait vraiment que j'aie les deux 50-50, j'allais à l'école arabe, vraiment j'étais très connecté à mon identité marocaine. D'ailleurs je me voyais plus comme marocain, comme un marocain en France que comme un français pendant très longtemps. Même avec ma famille, le fait d'avoir la langue, en fait le darija marocain première langue quand j'étais plus jeune, en fait, ça m'a permis de tisser un lien très rapidement avec ma famille et, par exemple, de parler à ma grand-mère qui, elle, ne parle pas un mot de français. Chose que j'aurais pas pu faire et la culture, elle se transmet aussi par les grands-parents. Donc, en fait, j'aurais raté quelque chose sinon, si je parlais pas l'arabe marocain. Voilà. Mon rapport avec le Maroc, avec mes origines, c'est un peu complexifié à mesure que je grandissais. Parce que j'avais, au fur et à mesure, surtout je pense en rentrant au collège, un regard très occidentalisé sur le Maroc. C'est-à-dire que pour moi, le Maroc, c'était donc les vacances, la mer, c'était la boisson Hawaï, c'était la Raïbi Jamila, et voilà, c'était Marrakech, c'était la côte casablancaise, et voilà. Donc en fait, j'avais vraiment ce regard-là de vacances où en fait, je cherchais pas vraiment à comprendre ce que le Maroc était, ce que le Maroc représentait, quelle était son histoire, tout simplement, et souvent je faisais des comparaisons très eurocentrées entre le Maroc et la France. Oui, le Maroc, y a pas ça au Maroc. Au Maroc, les routes, elles sont catastrophiques. Nous, en France, ça va. Nous, la connexion en France est meilleure. Voilà, c'était vraiment des comparaisons très superficielles que je faisais à ce moment-là. Et donc, finalement, ouais, ce rapport-là que j'ai eu avec le Maroc, en fait, c'est un peu simplifié. C'était un rapport de vacances, voilà. J'avais un peu l'impression d'être une sorte de néo-colonialiste vraiment à ce moment-là avec le regard que je portais sur le Maroc. Et très récemment, il y a 2-3 ans, que j'ai vraiment commencé à me reconnecter à mes racines marocaines. Tout simplement parce que j'ai compris ma place déjà en France. Ma place en France qui était pas toujours... désirée. Voilà, on va dire les choses comme elles sont. Et j'ai aussi compris que j'avais besoin d'être connecté à cette part de moi pour être complet finalement. Pour être complet parce qu'en fait, si tu veux, entre la partie du collège que j'étais en train de te raconter et aujourd'hui, il y a eu un moment de vraiment éloignement et d'égarement. J'allais quasiment plus au Maroc. Hein. Entre 2017 et 2020, je suis allé au Maroc une seule fois. Alors qu'avant, j'y allais tous les étés. Et en fait, je comprenais pas trop à ce moment-là pourquoi j'avais pris en fait cette distance avec le Maroc. Tu sais, entre le collège où bon, j'y allais tous les étés, où je me sentais quand même proche du Maroc, même si aujourd'hui, je porte un regard beaucoup plus critique sur ma relation avec le Maroc à cet âge-là. Et maintenant, quoi. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que je me sois autant éloigné de mes racines? J'ai pas vraiment eu d'explication. Peut-être qu'il y a une partie de honte. Peut-être que le fait de pas être considéré comme français m'a forcé, en fait, à faire des efforts supplémentaires et à mettre de côté mon identité marocaine. Je savais pas vraiment. Le fait est que, bah, il y a 2 ans à peu près, j'ai commencé à me poser des questions, bah, sur ma place en France et j'ai compris que ma place en France était pas très, désiré à certains moments, surtout à partir du moment où tu commences à gagner en échelon social entre guillemets, tu commences à revendiquer en fait certains droits qu'on va pas t'octroyer forcément toi en tant que fils d'immigré. Je prenais vraiment conscience des violences policières, du contrôle au faciès, même si c'est des choses que j'avais déjà vécues. Donc en fait, je me suis dit ok, mais il me manque un truc et il y a ce truc-là qui fait que je suis pas complet, et j'ai compris à ce moment-là que c'était parce que je m'étais éloigné du Maroc. Et en fait, je m'étais tellement éloigné du Maroc que même parfois, quand mes parents parlaient en arabe, je leur répondais en français, chose que je faisais pas avant. J'étais dans un rejet, en fait, comme je disais, en fait, j'avais tellement besoin de prouver, en fait, à la France, que je me suis dit, bon, bah, cette part du Maroc, faut que je la mette de côté. Tout simplement. Aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, ça va mieux. Je suis fier de mes origines, évidemment. Je vais pas les revendiquer tous les 4 matins, mais ça fait partie de moi. Je suis fier de mon nord-africanisme, parce que bon, c'est une belle culture. J'ai grandi dedans à moitié, parce que il y avait dehors, c'était la France, et à la maison, c'était le Maroc. Mais j'ai plus vraiment honte et je cherche plus à prouver en fait aux gens que je suis trop, que je suis français ou que je suis marocain. Je cherche pas du tout à prouver, je suis moi-même tout simplement.
Est-ce que cette réconciliation explique ton choix de faire des études en journalisme ?
Je pense que d'un côté, oui. Oui, d'un côté, parce que mon envie d'être journaliste, elle est née du constat que des gens comme moi n'étaient pas assez représentés en France. Et qu'il fallait que je parle de sujets qui nous intéressent. C'est pour ça que j'ai lancé le podcast à l'intersection, d'ailleurs. Pour moi, c'était important de mettre en avant des profils comme les miens, des personnes qui sont issues de double culture. Et évidemment que le Maroc a joué une part importante dans mon choix professionnel. D'un côté, parce que comme je l'ai dit à l'instant, je voulais représenter des Maghrébins, des Noirs, des Asiatiques. Et de l'autre, je voulais aussi rendre fière la famille au Maroc. Et rendre fière mes origines parce que mes parents sont venus en France. Mon père pour finir ses études qu'il n'a pas terminé. Ma mère parce qu'elle avait le rêve européen. Ils se sont sacrifiés pour nous. En eux, je vois le Maroc aussi et je vois tous les espoirs perdus. Je vois une certaine jeunesse qui a du mal à trouver du travail. Je me dis, mais franchement, moi, j'ai cette chance d'être ici. Autant faire quelque chose, quoi. Donc évidemment que ouais, le Maroc a carrément joué dans mon choix professionnel d'être journaliste.
Et tu es aussi issu d'un quartier prioritaire. Est-ce que ça a rendu ton envie d'être journaliste plus complexe, plus compliqué pour toi ?
Ouais, carrément, parce que dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, il n'y avait pas de journaliste. Il n'y avait pas énormément de personnes qui faisaient des études supérieures. J'en ai connu une, je me rappelle, c'était la grande sœur d'une amie à moi et j'étais en mode « Ah, mais elle est à la fac !» Voilà. Et c'était au collège, cette réflexion. C'est pas au lycée, ça. Mais du coup, ça a carrément joué parce que bah, j'avais pas de modèle de réussite. Donc, et je me disais que tous les métiers, que ce soit être médecin, être avocat, être journaliste, c'était des métiers de blanc bourgeois. Pour moi, c'était ça. Et j'avais l'impression, en fait, d'être au pied d'une montagne que j'allais jamais réussir à gravir, en fait. Honnêtement, c'était l'image que j'avais. En fait, c'est mes profs en terminale et mes parents qui m'ont dit de me sortir un peu, de sortir un peu de ma zone de confort et d'aller en classe préparatoire. Chose que je voulais pas du tout faire. parce que pour moi c'était j'avais l'image d'un château en fait quand je pensais à vraiment c'est très imagé comment je parle mais j'avais l'image d'un château quand je pensais à la classe préparatoire littéraire je voyais des petits blancs aristocrates voilà donc je me disais mais enfin c'est pas pour moi. Moi, laissez-moi, je vais faire au pire du droit anglo-américain parce que je suis fan de séries policières et justice américaine, voilà. Mes parents ont fait du lobbying, mes profs aussi m'ont dit « Non, mais t'as un bon profil pour y aller. » Donc, je me suis dit « Bon, allez, go, je vais faire ça. » Et quand je suis arrivé en classe prépa littéraire en septembre 2013, je me suis mangé une grosse gifle parce que je me suis pas du tout retrouvé dans les étudiants qui étaient avec moi. Et je trouvais que les cours étaient beaucoup plus difficiles que le niveau que j'avais. Peut-être que j'avais tort, mais en fait, je faisais que me dévaloriser à ce moment-là. Le fait d'être le seul jeune issu de quartier, mais ça a été, je pense, le point, la cerise sur le gâteau. Je me suis dit, j'allais pas réussir à tenir là-bas. Et en fait, je me suis moi-même tiré des balles dans le pied, dans le sens où je rendais pas certains devoirs au début. Et au bout d'un mois et demi, j'ai complètement lâché l'affaire et je suis allé à la fac, en fait. Parce que pour moi, c'était, j'avais l'impression de pas être à la hauteur et aussi de me trahir, de trahir mon environnement. En fait, je me rappelle qu'il y a une amie à moi qui était venue, elle me cherchait devant l'école et elle me fait « Ah mais maintenant tu traînes qu'avec des blancs ». Et là, j'avais l'impression d'avoir trahi ma classe et mes origines en fait à ce moment-là. Et bref, tous ces points négatifs-là ont fait que je me suis allé m'inscrire à la fac. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Je suis allé en fac d'anglais pour garder la bourse. J'avais ce souhait d'être journaliste depuis super longtemps. En fait, je me disais toujours, ça va pas être fait pour moi. Je vais faire du droit et on verra. Parce que le droit, t'apprends par cœur des cours de droit constitutionnel, d'histoire du droit, et bon, c'est bon, t'as ton année, quoi, enfin, voilà. Et surprise, non, parce que quand je suis arrivé en droit anglo-américain, j'ai pas du tout aimé. C'était à l'université de Cergy-Pontoise, dans le 95, en banlieue parisienne. Et en fait, j'ai détesté, j'ai complètement détesté. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Le journalisme, c'est mort. À ce moment-là, pour moi, le journalisme, c'est mort. Je vois les concours, je vois ce qu'il faut faire pour y accéder. Je me dis, mais moi, j'arriverai jamais à entrer en école de journalisme. Vraiment, j'étais terrifié. Hein. Mais vraiment, genre, tu sais, je regardais les sites internet, je voyais les épreuves Culture G, machin, QCM et tout, et je me disais, ah ouais, mais non, c'est mort. Mais il y avait toujours cette part en moi qui me disait, mais vas-y, lance-toi, on sait jamais, lance-toi dans le grand bain, parce qu'en fait, déjà, tu t'es lancé dans les études supérieures sans vraiment savoir ce que tu voulais vraiment faire. Bah, test, on sait jamais, de toute façon, on n'a qu'une vie. En fait, j'ai eu ce souvenir du début des printemps arabes, et c'était plus particulièrement au Maroc, pendant l'été 2011, l'été 2011, je me rappelle, je passais mes vacances avec ma famille et en fait ma tante qui travaille dans les droits humains était partie, enfin m'avait emmené avec elle à une manifestation la manifestation du mouvement du 20 février. C'était la manifestation du mouvement du 20 février et il réclamait plus de droits, un pas vers la démocratie, voilà, vu que le Maroc c'est une royauté. Et la manifestation avait eu lieu dans une petite ville à côté de Rabat, la capitale, qui s'appelle Tiflette, à peu près 50 km. Il y avait plus de policiers que de manifestants. La manifestation a été réprimée, ma cousine s'était mangée un coup de je ne sais quel batte ou. Enfin. Bref, il s'était fait vraiment frapper violemment. Et le soir, en rentrant, je vois qu'il n'y a pas de... Ils n'en parlent pas à la télé marocaine. Ça ne parle pas du tout de ça. Alors que, tu sais, habituellement, moi, petit français, quand il y a des manifestations dans ma tête, le soir, à la télévision, on va avoir un débrief et tout. Là, ils n'en parlent pas. Et là, je me mange une claque. Et en fait, c'est à ce moment-là, le moment T, où je me dis, mais j'ai envie de faire du journalisme pour donner la parole aux personnes à qui on la confisque ou à qui on ne la donne pas. Ça a été là et... En fait, au moment où je me rends compte que j'aime pas le droit, je me rappelle de ce souvenir-là, où je me disais, mais tu te rappelles, tu voulais être journaliste, qu'est-ce qui se passe? Mais lance-toi, et je restais terrifié et tout, alors je me dis, bon, tu sais quoi, je me parle à moi-même, tout ça c'est des conversations que j'ai avec moi-même, parce qu'autour de moi, il n'y a personne vraiment pour m'aiguiller, et je me dis, mais... va faire une fac d'infocom, il y a des cours de journalisme là-bas, tu verras si ça te plaît ou pas. Je rentre en fac d'infocom, ça se passe super bien. Je kiffe ma vie là-bas. Et là, je regarde mes parents, je regarde mes potes et je dis, bah, vous voyez, j'ai bien fait de me réorienter plusieurs fois parce que beaucoup de mes proches me disaient, ah, mais tu vas te réorienter toute ta vie. J'étais là en mode, ouais, mais attends. Là, on part du principe que j'ai pas de rôle modèle, j'ai pas de proches qui ont fait des études supérieures ou j'ai pas de journaliste autour de moi. Enfin, comment vous voulez que j'arrive à trouver facilement ma voie, en fait? Donc j'étais en mode ah ah ah, comme dans les Simpsons là, le personnage qui rigole, j'ai oublié son nom, mais voilà. Donc les 3 années de licence se passent super bien, je m'épanouis mais d'une façon, je m'étais jamais épanoui comme ça avant, et là arrive la fin de la licence et le choix du master, et je me dis bon, qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais de la recherche ou bien est-ce que je me lance dans les concours des écoles de journalisme l'année qui suit. Donc je décide finalement de me lancer dans un master recherche, et pendant l'été en fait 2018, donc entre ma licence 3 et mon master 1, il y a dans ma TL Twitter une annonce d'une prépa égalité des chances Bondy Blog École supérieure de journalisme de Lille, qui prépare gratuitement au concours des écoles de journalisme et qui paye le logement, les frais d'inscription et le train. Là je me dis et je le vois à ce moment-là, je crois 2 semaines avant ou 10 jours avant la fin des inscriptions. Donc je me dis là, c'est un signe de l'univers. Je vais m'inscrire, on sait jamais ce qui se passe. Je commence à m'inscrire. Avec le temps, j'oublie complètement de faire mon inscription. Et de la terminer. Et là, la responsable de la prépa me revient vers moi 2 jours après. Oui, t'as oublié de faire ton inscription. Bah allez, je te laisse 24 heures supplémentaires. Donc là, c'était vraiment, tout était aligné pour que je tente l'aventure. Donc je suis admis, ça se passe bien, je prépare les 12 masters en fait, et je passe du coup les 12 concours, enfin 10 concours de dossiers à ce moment-là. Je suis admissible à 8 écoles, je suis en mode, je suis comme un fou, parce que je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé comme je l'avais dit, de me lancer dans le grand bain et de pas regarder derrière moi et de me dire bon, j'ai qu'une vie là, je vais tester. Parce que j'avais cette mentalité de je vais me réorienter autant de fois qu'il faut pour réussir, bah je peux avoir la force de sacrifier une année de concours et on verra ce que ça va donner. Et je me suis dit, si je suis pris, c'est top, parce que du coup je pourrais donner l'exemple en fait à des jeunes comme moi qui viennent de quartier, ou même à des jeunes de mon quartier tout simplement. Donc en fait ma réussite à ce moment-là, j'ai commencé à la penser de façon collective. Ça a été un shift à ce moment-là. Et je me suis dit, je réussis pas juste pour moi, en fait, je réussis pour les autres. Pas que pour ma famille, mais pour les jeunes issus de l'immigration post-coloniale ou issus de l'immigration tout court qui veulent entreprendre des études supérieures. Et me voici aujourd'hui.
Et bravo, parce que je viens de voir sur ta page Instagram journaliste que tu avais eu ta carte de presse.
Oui, finalement. Enfin.
Ouais, ça a dû être un long chemin pour l'obtenir.
Bah, dis-toi que c'est mon père qui me l'a apporté, qui m'a apporté le courrier à la main, et donc il me l'apporte. Je me dis mais c'est quel problème bancaire encore? Et en fait, je vois que c'est ma carte de presse, et c'était hyper symbolique que ce soit mon père qui me l'apporte avec ses mains, parce que à ce moment-là, j'ouvre le courrier, je vois la carte, je fais, ah, mais papa, regarde, c'est ma carte de presse. Mon père, regarde, il est fou de joie lui aussi. Et j'y fais, mais tu te rends pas compte du symbolisme qui vient de se passer, toi qui me donnes ma première carte de presse avec ses mêmes mains qui se sont sacrifiées. Et je lui dis ça vraiment mot pour mot. Et il me regarde, bah, il me fait, bah oui, enfin, il dit pas, il a pas grand chose à dire, quoi. Il me dit, bah oui, c'est vrai, voilà, c'était dingue, c'était un moment dingue et c'est très, enfin, la carte de presse en soi, c'est qu'une carte, mais pour moi, c'est très, très symbolique. Ça représente beaucoup pour moi, pour les gens comme moi.
Ça représente toute cette expérimentation, en plus, que tu t'es autorisé, parce que comme tu disais, effectivement, tu t'es autorisé à faire plusieurs choses, à te réorienter, etc. Et c'est vrai qu'on a tendance à se presser ou à se dire qu'il n'y a qu'un seul chemin. Et j'apprécie vraiment le fait que tu te sois autorisé à prendre ton temps et à réfléchir à ce que tu voulais vraiment, parce qu'effectivement, tu étais le premier à ouvrir cette voie chez les tiens. Donc, bravo pour ça. Sur une note plus légère, pourquoi journaliste? J'ai même du mal à le dire.
Alors, pourquoi journaliste? Journaliste parce que j'ai toujours été passionné par les histoires de Jnoun, déjà de 1. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Enfin, c'est bizarre à dire, mais j'ai un dictionnaire de démonologie à la maison. Enfin, c'est des mythologies qui m'intéressent vraiment beaucoup. Et Jnoun, c'est aussi quand on dit quelqu'un, et Jnouné, c'est quelqu'un qui est un peu excité, un peu foufou. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, ça peut faire un bon jeu de mots avec journaliste, voilà, ça représente bien un peu mes, mon caractère de, voilà, j'ai un peu cette face sombre qui m'intéresse un peu à ces histoires-là, et d'un autre côté, je suis aussi quelqu'un de très, très dynamique, très genouné, on va dire, qui a toujours 50 000 idées à la seconde, à la minute, voilà, et je me suis dit, bon, bah, en plus, c'est cool parce que bah, les Nord-Africains, les Arabes qui verront ça, bah, ils s'identifieront aussi, ils vont se dire, ah, il y a un journaliste comme moi, ou juste un journaliste qui, voilà, qui me ressemble, quoi. Donc, c'est aussi, ça joue aussi dans la représentation, je pense.
Et pour revenir sur le thème des hommes d'origine nord-africaine en général, est-ce que tu penses qu'en France, être un homme de cette origine-là est complexe ? Est-ce qu'il y a des stéréotypes particuliers que vous subissez ?
Ouais, il y a pas mal de stéréotypes qu'on subit. Déjà, on associe tout de suite homme d'origine nord-africaine avec islam et avec terrorisme. L'homme nord-africain, de façon historiquement, je pense pas que je vais te l'apprendre, mais il a toujours été vu comme la menace. Déjà quand il y a eu les premières vagues d'immigration post-coloniale, on était toujours effrayés par cet homme-là, ce beurre qui était un délinquant, voilà. Et à côté, il y avait la beurette qui était son contraire, qui était beaucoup plus intégrée, beaucoup plus douce, voilà. Donc en fait, on a toujours eu cette image-là. On nous associe aussi au quartier populaire tout de suite, directement. Moi, j'ai ce malheur d'être effectivement de quartier populaire, et en plus d'avoir parfois cet accent-là qu'on va dire de banlieue, donc en fait moi aussi je et de mettre parfois des jogging, donc je casse pas vraiment les stéréotypes, mais en fait oui, bien sûr, on est ça nous dessert vachement, parce que juste quand tu marches dehors, quand tu rentres dans un supermarché, t'as toujours un vigile qui va te suivre. Moi, c'est toujours, bon, j'abuse, mais dans beaucoup de cas, les vigiles m'ont suivi, moi, personnellement. Ils me regardaient d'un œil bizarre. Quand je passais devant la police, on me regardait d'un œil bizarre. Parfois, on m'a déjà contrôlé parce que j'avais la tête d'un arabe. Voilà, donc en fait, il y a cet imaginaire-là de l'homme un peu bestial, un peu violent, dangereux, une menace pour les femmes et pour les femmes blanches. Enfin, faut bien préciser ça aussi, qui fait que bah c'est pas toujours facile d'être un homme maghrébin en France, enfin un homme nord-africain en France, et de vivre sa vie tranquillement, de pouvoir marcher dans les rues, voilà. Je vais juste nuancer. Notre condition, nos oppressions, évidemment, elles sont pas égales, évidemment, à ce que les femmes subissent. Ça, je voulais juste le préciser, même si la question parlait des hommes, mais pour moi, c'est important aussi d'inclure les femmes là-dessus. Il faut pas oublier que les femmes nord-africaines aussi sont sujettes à pas mal de stéréotypes et d'oppression, surtout les femmes maghrébines, musulmanes qui portent le foulard.
Et de toutes ces expériences, tu en as fait une force, car tu es le créateur du podcast À l'intersection, qui est né du constat que les médias ne parlaient pas assez des problématiques liées aux diasporas dont tu as parlé en France. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet ?
Alors, le projet d'À l'intersection est né en deux temps. Moi, j'aime bien dire qu'il est né en deux temps. Mais que ces deux temps-là ont comme dénominateur commun la frustration. Il y a eu un premier épisode en août 2019 sur le racisme anti-blanc. C'était un épisode pilote, l'épisode 0, que j'ai créé pour répondre en fait à la polémique qu'il y a eu à ce moment-là avec Lilian Thuram sur un possible racisme anti-blanc en France. Voilà, j'ai trouvé ça ridicule. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais là, j'ai un micro que je viens d'acheter il y a quelques semaines. Je vais me poser et faire des recherches sociologiques et historiques et expliquer en 10-12 minutes pourquoi le racisme anti-blanc n'existe pas. Donc l'épisode sort, moi je me sens plus soulagé parce que je me dis bon, moi il y a une production journalistique qui parle de ça, et je le laisse de côté en rentrant en école de journalisme. Plus les mois passent et plus bah je rentre dans l'univers des médias, même juste théoriquement, voilà, je m'y intéresse davantage, et je vois toujours que en fait rien ne change, quoi, et que moi je peux à mon échelle offrir un peu de représentation. Et c'est pour ça qu'en mars 2020, pendant le premier confinement, je me dis, bon, bah, tu sais quoi, je vais faire un épisode sur les cyber, ces jeunes de banlieue qui étaient connus sur Facebook et Skyblog entre 2009 et 2012. Et je vois que l'épisode rencontre un succès assez important à mon échelle, parce que il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais ça fait des années que j'ai pas entendu parler des cyber. Ah, mais c'est vrai qu'on n'a jamais parlé des cyber, ni dans les médias, il n'y a jamais eu de documentaire sur eux. » Mais c'est vrai que moi j'en rigolais beaucoup, mais ça devrait faire l'objet, en fait, d'une production journalistique. Et là, je me dis, je viens de je viens de débloquer quelque chose. Je viens de débloquer quelque chose et de me rendre compte que, au-delà de mon propre constat, en fait, il y avait aussi le constat des autres. Les autres aussi se rendaient compte que, qu'on les représentait pas et ça les frustrait aussi. Ça frustrait pas que moi qui étais dans le journalisme, ça frustrait d'autres personnes. Et quand il y a eu le cas de violence policière à Villeneuve-la-Garenne en avril 2020, toujours pendant le premier confinement qui a été le théâtre de plein de cas de violence policière, je vois que les éditorialistes et les journalistes traitent ce cas-là comme un fait divers et que la personne qui a été victime de violence policière était, on l'a traité un peu de délinquante, quoi. Finalement, elle l'avait bien cherché. Et je vois ça et je suis scandalisé et j'ai la boule au ventre et je me sens mal et je me dis mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas juste tweeter là-dessus. Et là, j'ai un déclic et je me dis bon, tu sais quoi, le deuxième épisode dans l'intersection, ça va parler de violence policière et je vais donner la parole aux personnes concernées. Et l'épisode se fait très vite, en 48 heures, tout est monté, tous les témoignages sont pris, enfin vraiment ça s'est fait à une vitesse. Enfin j'ai dormi je crois à 4 heures en 48 heures pour finir l'épisode, mais j'étais tellement animé par l'envie de laisser la parole aux gens que voilà, je me suis dit que je pouvais sacrifier quelques heures de sommeil. Et de là en fait, le podcast à l'intersection commence à prendre son envol parce que... À ce moment-là, je trouve vraiment sa ligne éditoriale, quoi. Je comprends vraiment qu'on allait parler des personnes racisées en France, qu'on allait parler de leur vécu, qu'ils soient positifs ou négatifs. J'essaie d'axer parfois vers le positif, mais c'est un peu compliqué, malheureusement. Bon, j'ai essayé, j'ai fait un épisode sur les chroniques Facebook qui a aussi bien marché et qui a été pas mal relayé. Mais voilà, je veux montrer là vraiment la pluralité de nos vécus. Et bon, si je traite que de sujets négatifs, c'est que bah, en fait, on fait vraiment souvent l'expérience de situation de racisme ordinaire, on est victime de racisme systémique, donc finalement bah c'est ce dont je vais parler. J'espère que dans peut-être 10 ans je pourrai parler de choses plus fun, hein. Mais bon, pour moi à l'intersection c'est au-delà d'être juste une production journalistique, c'est aussi une thérapie pour moi, c'est une thérapie pour les personnes qui parlent. C'est aussi un travail qui m'a permis de rencontrer énormément de personnes, de grandir, sortir finalement de ma zone de confort parce que j'étais confronté à d'autres vécus qui n'étaient pas les miens. Et j'ai compris, enfin je le savais déjà, mais ça m'a encore plus confirmé le fait que il n'y avait pas qu'une façon d'être noir ou arabe. Ça c'est horrible à dire comme ça, mais il y a encore plein de gens qui pensent que être noir et arabe c'est être ça. Ça, c'est vraiment une personnalité. Et en fait, tu te rends compte que juste de par la voix, la façon de s'exprimer, le milieu d'où des personnes viennent, la zone géographique, voilà, il y a autant de façons d'être arabe, noir, asiate qu'il y a d'asiate, de noir et d'arabe en France, quoi, finalement.
Et tout à l'heure, tu nous parlais de l'évolution, de la construction de ton identité. Où tu en es aujourd'hui? Tu fais partie d'une nouvelle génération de journalistes. Où en est ta réflexion? Où en sont tes liens avec le Maroc, avec la complexité de ton identité?
Alors déjà, aujourd'hui, j'ai compris quelle était ma place en France et j'ai compris en fait l'histoire de nos peuples, la raison pour laquelle ils sont venus en France. Donc j'ai compris pourquoi en France, plus je gravissais les échelons sociaux, plus j'étais face à du racisme répugnant. J'ai compris que nos grands-parents, quand ils sont venus en France, nos arrière-grands-parents, ils étaient venus comme personnes outils pour aider la France dans les usines, pour aider à la reconstruction, par exemple, après la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ils les ont aidés, ils ont pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale au front. Voilà, mais on était des personnes outils. Et quand on a commencé à s'affranchir et à vraiment essayer de demander plus de place dans l'espace public et plus de place dans la société, on a commencé un peu à nous créer des problèmes. Donc, en lisant et en discutant avec les gens et vraiment en me documentant, j'ai compris que voilà, c'était pas ma faute, que j'avais pas à blâmer le Maroc, que j'avais pas à me blâmer moi-même, que tout ce que je pouvais blâmer, c'était l'histoire et le hasard qui a fait que je suis né à cette période-là. Et que j'aurais peut-être pu naître dans 300, 400 ans et peut-être que les choses auraient été meilleures, je sais pas. Mais ça, je l'ai accepté. Donc en fait, en acceptant ma place en France, j'ai accepté ma condition, ma condition de Français d'origine étrangère et de Marocain aussi par la même occasion. Et j'ai arrêté de mettre cette partie de moi de côté, très fier de me revendiquer comme nord-africain. Je suis très fier de ma culture, j'en parle sans aucun souci. Je peux parler de même ma pratique religieuse sans problème. Je peux dire que je jeûne, par exemple, à une conf de Reda, que voilà, il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Je sais aussi que mes différentes identités, elles font ma force et que mon histoire en France doit pas être mise de côté, qu'au contraire, en fait, je dois la porter et je dois porter, en fait, toutes les galères que j'ai eues dans la vie pour montrer qu'en fait, c'est pas normal que quelqu'un comme moi ait autant de doutes et aussi peu de personnes, aussi peu de rôle modèle, en fait, autour de lui parce que il est français d'origine étrangère et parce qu'il vient d'un quartier populaire. Donc moi, je me dis, il faut que je porte ma voix et je porte la voix des gens et que je mette en avant, que je mette mon parcours en avant. C'était quelque chose que je voulais pas du tout faire il y a quelques mois encore. Et en fait, je me suis rendu compte quand je recevais des messages sur Instagram de personnes qui me demandaient des conseils sur le journalisme ou sur les études supérieures, que mon parcours et ma personne pouvaient faire la différence dans la vie de certains gens. Je dis pas non plus que je veux être une icône ou quoi que ce soit, mais si mes prises de position, mes prises de parole, mes projets et ma personne peuvent aider, alors je suis prêt à mettre de ma personnalité, même si ça me procure énormément d'anxiété et de stress, je peux la mettre en avant, c'est pas grave, parce que comme le projet à l'intersection, en fait, toutes ces problématiques-là que j'évoque, c'est beaucoup plus grand que moi, en fait. En fait, comme j'ai dit, ma réussite, c'est en lien, en fait, avec le moment où je préparais mes concours. Ma réussite, elle est collective, la réussite est collective, et en fait, les sujets que je traite prennent leurs racines dans des combats collectifs, en fait. Donc finalement, je suis obligé de mettre en avant ma personnalité et mes identités pour aider des personnes qui me ressemblent, ou qui me ressemblent pas, mais qui, elles aussi, sont traversées par plusieurs cultures.
Et justement, tu parles d'une réussite collective, d'un chemin collectif que tu fais avec les autres personnes qui te ressemblent. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement à ces personnes qui nous écoutent et qui rencontrent les obstacles que toi, tu as connus ?
En fait, c'est un peu bête comme conseil, mais je dirais aux gens, ouais, croyez en vous. Franchement, c'est le truc le plus bateau, mais c'est vraiment le... Si on ne croit pas en soi, personne ne croira en nous, quoi. En fait, c'est simple, je l'ai compris à ce moment-là. Aussi, le conseil que je donnerais, c'est d'être malheureusement prêt à faire des sacrifices. Mais bon, c'est des sacrifices ponctuels, mais il faut en faire malheureusement. Et aussi, un autre conseil, c'est vraiment de... Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, il y a énormément de pages, il y a énormément de profils qui émergent. Allez leur parler. Même si tu vois qu'ils ont 15 000 abonnés, 20 000 abonnés, les gens répondent parce que ces gens-là... Je pense qu'ils sont aussi dans un travail de représentation. Il faut aller chercher l'information. Moi, au moment où j'ai commencé... à chercher des informations sur mon orientation, sur ma culture, il y avait Instagram commençait à peine à débuter, il n'y avait pas autant de production, et comme je l'avais dit dans c'est pas moi qui l'avais dit, c'était Priska du podcast Les Enfants du Bruit et de l'Odeur, elle disait que ce qui manquait aux générations passées, c'était la traçabilité. Et en fait, vu que moi je suis un enfant des années 90, bah en fait cette traçabilité-là, elle m'a manqué aussi à une période. Aujourd'hui, heureusement, depuis 5 ans à peu près, il y a une floraison en fait de comptes Instagram et d'autres comptes sur les réseaux sociaux, voilà, qui tracent un peu les combats et les profils. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser à mon orientation, voilà, Instagram, ça a commencé à peine à débuter. Aujourd'hui, heureusement, il y a énormément de contenu. Donc, aller vers eux, aller vers ces comptes-là et les prendre comme point de départ d'une réflexion plus approfondie sur des bouquins, quoi. Mais vraiment, heureusement qu'il y a de la connaissance accessible avec des personnes accessibles. Aller vers ces personnes-là, c'est hyper important.
Et je pense que c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, nous deux et d'autres personnes, c'est qu'on rend nos histoires dignes d'être écrites et racontées. Et on donne aussi un héritage à nos futurs enfants, petits-enfants, pour leur dire que oui, notre histoire existe et nos complexités sont là et on peut être ce qu'on veut réellement, même si encore une fois, ça paraît bête de le dire, on a le droit d'être ce qu'on veut.
On a le droit d'être individuel et des personnes uniques. On a le droit de pas être accolé aux stéréotypes qu'on va essayer de nous mettre. On a le droit d'être arabe et maghrébin et faire des études d'art, par exemple. Ça, c'est un truc qu'on met pas assez en avant. On nous dit oui, les sciences ou le droit ou voilà. Non, on a le droit d'être chanteur, d'être sur les scènes de théâtre. Voilà, on peut être ce qu'on veut.
Merci Anas. En plus, je suis très touchée par ton témoignage parce qu'il se rapproche. Enfin, ton histoire se rapproche beaucoup de la mienne parce que je suis aussi d'origine marocaine et je suis la première à avoir fait autant d'études supérieures dans ma famille. Et comme ça, moi, j'ai fait des études culturelles pour le coup. Tu vois, donc je comprends ce que tu viens de dire pour les études artistiques. Et donc, il y avait personne qui me ressemblait, personne de mon origine. Et effectivement, j'ai pris du temps aussi à accepter. Au début, je me mettais un peu des bâtons dans les roues, et puis t'as le syndrome de l'imposteur dont tu as parlé. Donc c'est super important qu'on ose dire tout ça et qu'on n'ait pas honte en fait de se dire que peut-être qu'on s'est trompé à des moments et que finalement aujourd'hui on trouve notre voie et on la partage aux autres.
pendant que j'étais à la recherche de mon orientation, en fait, ce qui m'a sauvé, moi, ça a été l'écriture. L'écriture, ça m'a... Et pourtant, l'écriture, c'est pas un truc qu'on va associer aux maghrébins de France. On va pas dire, ouais, ils peuvent être écrivains, ils peuvent être poètes. Ça, c'est pas un truc que j'entends souvent. Même s'il y a énormément de super écrivains et de super poètes dans nos pays à nous. Mais nous, les jeunes issus de quartier qui sommes maghrébins d'origine, c'est un peu compliqué à envisager. Bah, moi, j'ai écrit mon premier livre, en fait, à ce moment-là, que j'avais auto-édité, qui s'appelait Les Chroniques de Tayna Jones. J'en ai écrit même deux, un deuxième, un en 2014 et un en 2016. En faisant ça, en fait, je me rappelle que j'avais cassé déjà un gros stéréotype, parce que quand je me présentais à des personnes qui venaient pas de quartier et que je leur disais « Ouais, je viens du 19e à Paris, j'habite dans cette cité-là et ouais, j'ai écrit un bouquin et tout », ils me regardaient en mode « Ah bon ?» Ça existe. Voilà, et ça m'a énormément sauvé aussi. Et je pense que si je devais donner un dernier conseil, ce serait de développer ses intérêts culturels et artistiques. On en a tous, hein. L'humain est naturellement attiré par l'art et par la musique, par le chant, par la peinture, voilà. Donc vraiment, moi, si je devais donner un conseil aux Nord-Africains et aux Nord-Africaines qui nous écoutent, c'est vraiment de voir quels moyens d'expression artistique ils peuvent trouver et auxquels ils peuvent s'attacher, voilà.
Le message est bien passé. Alors Anas, comment on fait pour te suivre et te soutenir dans la suite de tes projets ? On peut te suivre sur Twitter et Facebook et Insta sur Jnounaliste, c'est ça ?
Exactement. Et sur le compte Instagram à l'intersection collée.
On peut l'écouter partout, ton podcast ?
Il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Faut juste taper à l'intersection et on le trouve directement. Ou sinon sur le Linktree d'à l'intersection, mais tout est sur le compte Instagram. Dans tous les cas, il y a un lien en bio et les personnes peuvent accéder à tous les épisodes.
Parfait, merci beaucoup Anas pour ta confiance et le partage de son histoire.
Merci à toi et merci pour ton invitation.
Merci infiniment à Anas Daif. On peut donc le suivre sur Twitter et Instagram à Jnounaliste et écouter son podcast à l'intersection. Si tu veux réagir à cet épisode, écris-moi sur les réseaux sociaux à Nerner Podcast, NA3 Podcast. Et comme d'habitude, si le podcast te plaît, n'oublie pas de mettre 5 étoiles et de commenter sur Apple Podcast. C'est en montrant ton soutien et en partageant autour de toi qu'on pourra continuer ce beau projet et déconstruire ensemble nos identités plurielles. À très bientôt sur Nerner Podcast.